Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Aucune armée étrangère sur invitation des autorités n'existait sur le sol congolais, affirmation du porte-parole de FRDC. C'était hier lors d'une conférence de presse conjointe, gouvernement FRDC et police. Il y a plutôt collaboration entre FRDC et l'armée ougandaise pour lutter contre le terrorisme des ZADF. Les procédures judiciaires dans les affaires indemnisation des victimes de la zaïrianisation et Bukanga Lonzo sont de machination politique, affirme le sénateur Matata Mponyo. Il dénonce le fait qu'il n'a toujours pas recouvré ses immunités parlementaires en dépit du fait que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de le juger. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Madame Ritu Sabuni. Elle est du bureau Jean, Famille et Enfants dans la ville de Beni. Avec elle, nous évoquerons les particularités de 16 jours d'activisme pour la lutte contre les violences basées sur le genre dans la ville. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Il n'existait pas d'armées étrangères sur le sol congolais sur invitation des autorités de la RDC. C'est ce qu'on peut retenir de la conférence de presse conjointe animée hier lundi dans la soirée par les porte-paroles du gouvernement, de l'armée et celui de la police. Cependant, ils ont reconnu qu'il existe une collaboration ou mutualisation des efforts entre les armées congolaises et ougandaises, notamment pour mettre un terme au terrorisme perpétré par les ZADF. Je vous propose d'écouter le porte-parole de FRDC, un extrait des propos du général Léon Richard Kasonga, recueilli par Pélé Kipelamundu.
Et si donc il y avait problème pour l'entrée sur le sol congolais des militaires ougandais, nous ne serions pas allés par quatre portes pour le redire. Mais est-ce que ce n'est pas le cas? Pourquoi des sources non crédibles vous rabattent les oreilles tous les jours et vous croyez sincèrement dans les réseaux sociaux qui sont devenus une source d'information officielle pour vous? Quand nous menons des opérations et nous avons besoin d'assistance, nous vous le disons. Nous disons, la MONUSCO nous aide. C'est un partenaire précieux. Nous ne cachons pas cela. De la même manière, si on avait voulu avoir de l'assistance ou de la troupe venue de l'Ouganda sur le sol congolais, on serait encore venu vous dire, à partir de telle date, nous avons fait ça et ça. Mais ce qui est vrai, le 25 mai de cette année, le chef d'état-major général de nos forces armées avait rencontré son homologue ougandais à Beni. J'étais présent à cette occasion, en seul point à l'ordre du jour, mutualiser les renseignements de manière à identifier, localiser et cibler des actions contre l'ennemi commun, là où il se trouve, des parts et d'autres de la frontière, la DEF. Nous, on a accepté de mutualiser des renseignements en exécution de la volonté politique exprimée par le chef de l'État, notre chef de l'État, en concertation avec ses collègues de la région.
Autre nouvelle, les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, se disent préoccupés par la situation sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu, où le nombre de morts et de déplacés ne font qu'augmenter. Cette position des princes de l'Église catholique a été rendue publique hier lundi à travers une conférence de presse animée par le secrétaire général de la CENCO. L'abbé Donatien Cholet a fait la restitution des travaux de la session extraordinaire du comité permanent de la CENCO tenue à Kinshasa du 23 au 25 novembre dernier. Il a ajouté que les évêques ont fustigé la politisation de la CENI et réaffirmé leur soutien à la gratuité de l'enseignement. On écoute l'abbé Donatien Cholet, joint par Alain Irung.
Pour la situation sécuritaire, ils se sont penchés particulièrement sur la situation de l'Ituri et du Nord Kivu. Ils ont examiné les deux rapports de la mission de la CENCO qui était sur le terrain. Mais le plus préoccupant pour eux, c'est le fait que l'insécurité continue de façon préoccupante. Il y a le nombre de morts augmente, des placés internes. Alors, ils ont fait des propositions au commandant suprême dans le sens de requalifier l'état de siège. Ils ont déploré la politisation de la CENI et ils font observer le climat de méfiance engendré dans la classe politique et dans la population et dans leur posture de pasteurs et non de militants. Ils ont pensé donner quelques orientations pastorales. Ils ont fait des recommandations, entre autres, des réformes consensuelles de la loi électorale. Si on peut avoir une loi électorale qui rassure les parties prenantes, avec toutes les questions qui se posent aujourd'hui, ça pourrait être intéressant.
Alors, en Ituri, le centre commercial de Amé à plus de 90 km au nord de Bunia, dans le territoire de Mahagi, est sous contrôle des miliciens Codeco depuis hier lundi matin. Selon la société civile locale, ces rebelles ont investi la ville après un échange de tirs avec les forces de sécurité. Cette structure avance un bilan provisoire de 6 civils tués et 5 personnes blessées. L'armée, de son côté, dit que les combats sont en cours pour déloger ce groupe armé. Le point avec Marcel Kizabiamungu.
C'est depuis 6 heures locales que les assaillants de l'IRDPC Barcodeco ont attaqué les centres commerciaux de Amé. Les policiers de la Légion nationale et les militaires FARDC n'ont pas résisté à l'assaut de ces miliciens venus au grand nombre. D'après la société civile locale, les miliciens sont visibles dans ces centres de négoce après quelques heures de combat avec les forces loyalistes. Le président de cette société civile, Patrice Ofoyuru, qui cite des rescapés par les 6 civils tués pendant les affrontements. 6 autres personnes ont été blessés, dont 2 policiers, un militaire et une directrice d'une école primaire d'Amé.
Les centres de négoce d'Amé sont toujours sous contrôle des éléments Codeco. Alors, les pillages systématiques continuent à être observés avec des incendies des maisons.
À Bunia, une réunion du commandement militaire se tient depuis ce matin autour du gouverneur des provinces pour intensifier les opérations contre ces groupes armés. Les porte-parole de l'armée en Ituri exhortent la population à plus de vigilance. Le lieutenant Gilles Ngongo.
Nous sommes en alerte maximale, c'est-à-dire on devons être trop vigilants à tout moment. Mais pour ce du reste, nous rassurons à notre population que tous les moyens sont mis en œuvre.
Plusieurs familles se sont déplacées vers Ngoté, une localité voisine qui offre plus de sécurité. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
On reste en Ituri. Plus de 50 villages du groupement Boukou dans la chefferie de Baïma Nord, en territoire de Djougou, se vident progressivement de leurs habitants. C'est à la suite des exactions des miliciens de la Codeco dans les différents sites des déplacés dans cette zone. Selon la société civile locale, environ 70 000 personnes ont fui les récentes attaques de cette milice pour s'installer à Roé, à côté d'une base de la MONUSCO. Le coordonnateur de service de protection civile lance une alerte aux autorités militaires pour sécuriser cette entité territoriale pour faciliter l'accès aux humanitaires. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis plus d'une semaine que la situation sécuritaire a dégénéré dans plusieurs localités en territoire des Djougou. Au moins 3 sites de déplacés, Drodro, Tché et Ivou, ont été la cible d'attaque des miliciens du groupe armé Codeco. Conséquence, des milliers d'habitants et des déplacés ont fui pour leur sécurité. Parmi eux, des enfants, des vieillards ainsi que des femmes enceintes. Depuis la semaine dernière, on note à peu près 52 villages du groupement Boukou vidés de leurs habitants, indique le président de la société civile locale, Charité Banza.
Les gens manquent de quoi manger. Dans la localité Boukou, on a à peu près 52 villages, mais c'est sur 52 villages, il n'y a pas plus de 5 villages qui gardent encore la population à la maison. C'est comme ça, il y a un problème très sérieux au camp. Alors nous avons demandé seulement que le gouvernement puisse stabiliser la paix.
De son côté, le coordonnateur du service de la protection civile appelle les autorités militaires à restaurer l'autorité de l'État en territoire de Djougou pour endiguer les menaces des groupes armés. Robert Ndjalonga.
Il faudrait encore beaucoup plus renforcer ces mesures de sécurité et de protection de ces zones-là, afin que la population puisse retourner.
Signalons qu'une centaine de civils, dont des déplacés internes, ont déjà été tués au cours des multiples attaques des miliciens Codeco. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire. Le sénateur Matata Ponyo Mampone n'a toujours pas recouvré ses immunités parlementaires en dépit de la décision de la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente de le juger. Au cours d'un point de presse hier lundi ici à Kinshasa, l'ancien Premier ministre dénonce plus de 7 mois de prison à ciel ouvert dans son propre pays puisque privé des droits de se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur du pays selon ses propres termes. Il juge alors toutes les procédures judiciaires contre lui, notamment dans les affaires indemnisation des victimes de la zaïrianisation et affaire Boukangalonzo, de machination politique contre sa personne et d'instrumentalisation du procureur général près la Cour constitutionnelle et l'inspection générale des finances. On écoute Augustin Matata Ponyo au micro de Michel Kifindangoy.
Ayant échoué d'obtenir la levée de mes immunités sur l'affaire Boukangalonzo, un dossier fictif a été ouvert et instruit en toute irrégularité. Le procureur général a reconnu personnellement qu'en principe, je devais rentrer en toute liberté à la résidence parce que mon dossier était vide et que c'est pour tenir compte de la pression politique qu'il était obligé malgré lui de me mettre en résidence surveillée. Il a dit en présence de mon avocat. Selon certaines informations, le procureur général près la Cour constitutionnelle aurait transmis les dossiers au parquet général près la Cour de cassation pour instruction nouvelle, confirmant la thèse d'un acharnement politique. Si le parquet général près la Cour de cassation s'était déclaré incompétent il y a 5 mois pour traiter les dossiers judiciaires d'un premier ministre honoraire, comment le sera-t-il aujourd'hui alors que la Constitution et les lois du pays n'ont pas changé?
Autre nouvelle, les travaux de validation de la stratégie nationale actualisée de lutte contre la corruption se sont ouverts hier lundi ici à Kinshasa. Ils sont organisés par l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption APCEL en collaboration avec le PNUD. L'objectif final est de produire un outil mis à jour à caractère national qui répond aux enjeux actuels et s'alignant sur les standards internationaux. C'est en l'occurrence la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre ces fléaux. Billy Van Lutumba.
Cette stratégie qui contient déjà un ensemble de textes et dispositions bien élaborés lors des diverses activités organisées par l'État congolais a eu du plomb dans les ailes pour sa mise en œuvre à cause d'un climat politique peu favorable pour lutter efficacement contre la corruption, souligne le coordonnateur de l'APLC, Thierry Mboulamoko.
La lutte contre la corruption s'est faite dans un cadre légal général non actualisé, obsolète, privé de l'ancrage politique et distant de la volonté tous azimuts de lutter contre ce fléau qu'est la corruption. Depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État s'est illustré par son engagement politique pour une lutte sans merci contre les antivaleurs, dont la corruption.
Initiative ardemment encouragée par le PNUD, programme des Nations Unies pour le développement, à travers sa représentante à la cérémonie d'ouverture.
La République démocratique du Congo doit bâtir sa vision du développement économique et social sur un socle de valeurs profondes d'un État de droit. Combattre la corruption devient un impératif de bonne gouvernance pour une gestion transparente et performante des ressources publiques et une répartition équitable des richesses.
À sa qualité de coordonnateur de l'exécutif national, la ministre de la Justice a réaffirmé sa détermination pour la mise en œuvre et l'exécution des résolutions de ses travaux.
On reste à Kinshasa. La coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP, a lancé hier lundi, au cours d'une conférence de presse, sa campagne de consultation de la population congolaise sur la situation d'accès à l'électricité à travers les pays. D'après Emmanuel Moussouyou, secrétaire technique de cette structure, les enquêteurs qui sont déployés dans les différentes provinces vont recueillir les avis des communautés locales sur des questions liées à l'amélioration des conditions d'accès à l'énergie électrique en RDC. Emmanuel Moussouyou est au micro de Tati Mapoko.
Tous ces thèmes seront liés à la politique énergétique. On peut noter par exemple toute la problématique liée à l'exploitation de toutes les énergies à travers l'eau. Il y a l'hydroélectricité et sa place dans le mix énergétique. Il y a toute la question liée à la cuisson. Vous savez qu'aujourd'hui, plus de 94% d'énergie consommée en RDC est basée sur, n'est-ce pas, le bois énergie. Et ici, dans les consultations, les populations vont réfléchir autour de la cuisson propre. Au-delà de ça, c'est toutes ces questions qui se dérouleront autour du cadre légal et institutionnel. S'il faut voir aussi réglementaire, aujourd'hui, c'est quoi l'état des lieux de la loi sur l'électricité?
Et on parle santé, au moins 3000 prestataires de santé sont attendus pour recevoir une dose de rappel du vaccin contre la maladie à virus Ebola à Beni. Ce sera une dose du vaccin RVBO homologué par l'OMS pour renforcer leur immunité. La cérémonie officielle de lancement de cette nouvelle vaccination a eu lieu hier lundi à Mabakanga. Le médecin-chef des zones de santé de Beni, Dr Michel Tosalisana, explique l'importance de cette dose de rappel au micro de Marc Marofimbo.
Il est recommandé que nous, comme prestataires de première ligne, puissions renforcer notre immunité en recevant une dose de rappel. Pour renforcer l'immunité, nous sommes appelés à recevoir une deuxième dose. Moi qui l'ai reçue en 2018, me voici encore revenir pour renforcer mon immunité. Pour l'instant, comme on a fini avec les contacts qui étaient suivis, maintenant on se concentre pour vacciner les prestataires de première ligne. Donc ce sont les personnes qui sont d'abord les soignants et d'autres catégories de gens qui sont toujours en contact avec beaucoup de gens à la fois parce que le risque d'être contaminé est élevé chez eux. Ce vaccin, on doit le préciser maintenant, c'est le vaccin homologué, donc l'OMS a déjà validé. Et c'est pour cela que vous m'avez vu, je n'ai pas signé de consentement. Et c'est le vaccin RVBO. Avant même de commencer, nous avons fait ce qu'on appelle le pré-listage, un listage préliminaire pour voir à peu près quel est l'effectif que nous devons vacciner. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de rupture à vaccin.
Actualité internationale.
Le forum de coopération sino-africaine se poursuit à Dakar. Plusieurs ministres chinois ont fait les déplacements pour cet événement. Une part importante des échanges de ce forum est consacrée aux relations économiques entre la Chine et le continent africain. Pékin reste notamment le premier partenaire commercial du continent, mais cette relation est déséquilibrée et aujourd'hui, les chefs d'État africains souhaitent changer la donne. Et puis, l'ancien président Alpha Condé a été transféré à la résidence de son épouse en proche banlieue de Conakry, selon un communiqué du Comité national de rassemblement pour le développement CNRD, lu hier lundi à la télévision publique. Cette maison était jusque-là vacante. Elle est désormais surveillée par deux véhicules blindés des forces de sécurité. Depuis qu'il a été renversé par un coup d'État le 5 septembre dernier, Alpha Condé était gardé en lieu sûr par des militaires. Alpha Condé bénéficie d'un traitement digne de son rang sans aucune pression internationale, insiste le CNRD. Toutefois, Alpha Condé n'a pas le droit de sortir et n'a toujours pas accès à un téléphone, indique un de ses conseillers.
L'invité.
Que retenir de 16 jours d'activisme pour la lutte contre les violences basées sur le genre lancée depuis le jeudi dernier? Quel type d'activité planifiée pour la vie de Béni avec quelles particularités? Ces questions et tant d'autres ont été posées à Madame Ruth Sabouni du bureau Genre, Famille et Enfants de la ville de Béni. Ruth Sabouni s'entretient avec Marc Marofimbo. Suivez.
Madame Ruth Sabouni, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que nous pouvons retenir des 16 jours d'activisme déjà lancés depuis le jeudi dernier?
Par rapport aux 16 jours d'activisme, tous les partenaires qui interviennent dans le cadre de lutte contre les violences basées sur les genres et sexuelles vont entrer dans la communauté juste pour sensibiliser et conscientiser la communauté par rapport aux violences qui sont commises dans notre communauté. L'objectif de ces sensibilisations, c'est de faire comprendre à tout et chacun que les violences, si sont là, on est tous candidats, victimes potentielles par rapport à ces différentes violences. Donc, c'est pour informer la communauté des circuits de référencement d'abord, mais aussi des différentes prises en charge qui sont dans notre communauté, mais aussi avoir le courage de dénoncer.
Et pour cette année-ci, ces 16 jours vont prendre quel type de particularité?
La particularité pour cette campagne, c'est d'abord toutes les couches ont été visées. Quand je parle de toutes les couches, c'est-à-dire les femmes, comme vous le savez, normalement, cette lutte contre les violences qui sont célébrées le 25, ça cible uniquement les femmes. Mais dans le contexte de VBG, nous trouvons que tout le monde est victime, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, on est tous victimes de ces différentes violences. C'est-à-dire toutes les couches possibles ont été ciblées, dont les femmes, les hommes et les personnels qui travaillent dans des services différents, que ce soit para-étatique et étatique. Et les militaires aussi ne sont pas épargnés parce que ce qui nous a marqué le plus, nous travaillons en collaboration même avec les FIB qui ont aussi entamé les activités, ils sont en train de sensibiliser. Au moins, ils ont ciblé la FRDC pour leur montrer les causes et les conséquences et quelles sont les lignes, les circuits à suivre pour ces différentes violations. C'est-à-dire tout le monde est ciblé pour ces activités.
Madame Ruth, on peut avoir une idée sur les types d'activités cette fois-ci qui seront organisées pendant ces 16 jours?
Oui, les types d'activités, nous avons d'abord des émissions radio. Il y a certains partenaires qui ont des espaces dans des chaînes de radio À part ça, il y a des sensibilisations au niveau des écoles. Là, c'est plus, on a ciblé les enfants pour les parler des infractions de harcèlement qui se commettent surtout au niveau des écoles. À part ça, nous avons des formations, parce que même au niveau de la coordination, nous avons choisi une activité de former certaines femmes travailleuses juste pour les parler et les informer de ce qui est du protocole de Maputo. C'est un protocole qui a été promulgué depuis un certain temps, mais chez nous ici, ça a pris une allure là depuis 2018. Maintenant, c'est un protocole qui n'est pas encore plus vulgarisé. Et on est en train de vouloir échanger avec les femmes par rapport à ce qui concerne les différents articles de ces protocoles de Maputo. Mais aussi, à part ça, il y aura aussi des activités au niveau de la communauté qui seront faites avec les femmes marchandes au niveau des marchés, les motards au niveau de leur parking. Et c'est comme ça que vont se dérouler les activités pour cette année.
C'est quoi la part de la population pour la réussite de cette campagne?
Pour la réussite de cette campagne, la part de la population, c'est l'engagement de dénoncer les différents cas qui se commettent. Parce que la plupart des fois, les acteurs qui interviennent et ils partent conscientiser la communauté, mais le seul défi qui reste, c'est le défi de la non-dénonciation. Si une fois un cas est dénoncé, on peut suivre la procédure à la loupe. Parce que des fois, on a toujours tendance à dire non, il y a l'impunité, il y a l'impunité. Est-ce que les cas sont dénoncés? Ce que nous suggérons cette fois-ci pour cette année, il faudrait qu'on ait les cas qui seront remontés et à partir de la prise en charge, les suivis qui seront faits à rapport à cette dénonciation, au nombre des cas qui seront dénoncés, c'est ce qui peut nous permettre de voir est-ce que réellement les dossiers dénoncés sont traités avec sérieuxité ou comment.
Voilà, Madame Rita Sabouni, nous vous remercions.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.